terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Voilà, retour à l'émission et voilà, on va parler racisme, attaquons directement. On va pas perdre de temps. On va parler avec le docteur Wolf Tima d'une initiative. D'abord, je lui dis bonjour. Merci d'être là pour parler de quelque chose quand même d'assez. On en entend juste parler un tout petit peu comme ça. Moi, j'ai reçu une invitation pour une initiative qui s'appelait. Alors, il faut que je prononce bien pour que les gens comprennent. C'est ça la radio. Remédion. Au racisme médical.
Exact.
Sauf que remède, il y avait remède majuscule, ouais. R-E-M-E-D en majuscule. Alors exact. Là, il y avait toute une subtilité et ça a attiré mon attention. Mm. Puis je me suis dit, oh oui, racisme médical. Et puis j'ai vu le mot gaslighting. C'est ça qu'on dit, hein?
Je pense qu'il y a un mot.
Attends, il y a un mot comme ça, plus, là, ouais. Vous avez vu, quand j'ai mis beaucoup d'hésitations parce que j'ai mes English à côté de moi qui jouent beaucoup avec mon accent. Mais content, je le redis, merci d'être là. Parlez-nous un peu. D'abord, deux, trois mots sur vous. Vous êtes médecin à Montréal. Non, étudiant médecin, c'est ça?
Alors, moi, j'ai gradué de ma médecine au printemps dernier. Donc, okay. Maintenant, je travaille comme médecin résident en psychiatrie dans le département de psychiatrie de l'Université de Montréal.
Ok, ouais. Je suis confondu avec McGill. D'accord, c'est ça. En psychiatrie. Ouais. Et voilà, donc, cette initiative, parlez-nous un peu de ça direct. On voit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui voit racisme médical, tout de suite, il se dit, oh, mais de quoi on parle?
Je pense que quand on pense au racisme médical depuis le décès vraiment très tragique de Mme Échaquan, c'est l'image qui nous vient en tête. Hein. C'était une situation absolument horrible. On a vu c'était quoi la xénophobie, c'était quoi le racisme dans un système de santé qui est supposé d'être égalitaire et équitable pour tous et toutes. Pour ma part, malheureusement, un an avant le décès de Mme Échaquan, j'ai vécu une situation absolument
personnelle.
Horrible. Très, très personnelle.
Mm-hmm. On peut en dire un mot?
Absolument. Mm-hmm. C'est une longue histoire, mais pour faire court, mon père a été hospitalisé et au cours de son hospitalisation, on a vécu plusieurs situations de racisme très, très, très claires. D'abord, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, j'ai dû me battre pour qu'il soit pris au sérieux, au triage, par une infirmière qui était prête à le retourner alors qu'il était visiblement pas bien. À l'époque, j'étais déjà étudiant en médecine. Une fois qu'il a été finalement pris au sérieux, une infirmière arrive et nous répond pas. Elle était très, très bête avec mon père et moi-même. Elle sort de la salle, elle voit un ambulancier, yeux bleus, cheveux châtains. Elle lui dit, vous savez, ce monde-là, c'est tout le temps la fin du monde. Il y a une petite fièvre, il y a une petite grippe. L'ambulancier en question, c'était mon beau-frère, en fait, qui s'est fâché suite c'est à cette propos-là.
On parle là de Montréal. Là.
Oh, Montréal, oui. D'ici, là. Oui, okay. Montréal, oui. Mm-hmm. Mais là, encore une fois, c'était pas vraiment le pire. Le pire, c'était le jour de sa mort. Une heure avant, ma mère et moi, on lui avait parlé au téléphone. Il commençait à aller mieux. Et soudainement, on reçoit un appel de l'hôpital nous disant qu'il va vraiment pas bien, puis de venir. Et on s'attendait pas du tout à ce qu'il soit décédé, en fait. Et lorsque ma mère est arrivée, puis qu'elle a vu qu'ils essayaient de le réanimer, elle est tombée sur ses genoux et elle a poussé un cri de détresse. Et une infirmière arrive et lui dit « Ça suffit, je ne veux plus entendre un mot. Vous autres, et ici j'insiste sur le « vous autres », vous vous croyez tout permis. » Et elle a menacé d'appeler la sécurité si ma mère n'arrêtait pas de pleurer trop fort parce que ma mère dérangeait les autres patients. Alors j'ai dû m'excuser et lui demander moi-même de trouver une salle pour que ma mère puisse se recueillir en attendant. C'était une situation incroyablement traumatisante qui m'a fait réaliser c'était quoi le racisme dans notre système de santé. Et lorsque Mme Échaquan est décédée, dans les circonstances qu'elle est décédée, j'ai eu une colère, j'ai eu une rage en moi. Il y a Maître Fernando Bolton, le directeur de la clinique juridique de Saint-Michel, qui m'a approché justement parce qu'il voulait faire quelque chose par rapport à ça lui aussi. Sauf que nous étions pas trop certains de savoir par où commencer. Moi, de mon côté, j'avais mon expertise dans le système de santé. Lui, il avait son expertise juridique. Donc, nous sommes réunis et nous avons développé depuis l'automne dernier, justement, un groupe composé d'infirmières, de moi, plusieurs avocats et des étudiants en droit, de manière justement à créer ce projet là, qui nous tient énormément à cœur.
Je suis supposé vous poser des questions, docteur Olsima. Je suis supposé vous poser des questions, mais je vous entends, je vous regarde parler. Et la radio, il faut parler. Mais là, je suis silencieux parce que je ne réalise pas, en fait, ce que vous êtes en train de dire, je ne réalise pas. Mm. Bah, si vous le dites, ça vous est arrivé, mais je réalise pas qu'on parle de Montréal.
Ouais.
Là, en 2022, mm-hmm. je ne réalise pas ça. Là, vous avez lancé cette initiative Remédions au racisme médical. Elle consiste en quoi?
Mm-hmm. Alors, ce projet est en trois volets. Donc, il y a un volet. Le premier volet, c'est vraiment l'élément de sensibilisation et d'éducation. C'est un sujet qui reste assez flou et
tabou, même.
Et tabou, mm-hmm. exactement. Alors, le premier volet pour nous, c'était d'être capable, justement, à partir, justement, de feuillets explicatifs, de pouvoir expliquer c'est quoi, de pouvoir aussi expliquer c'est quoi les ressources qui existent afin de porter plainte, notamment. Le deuxième volet a eu lieu le 19 mai dernier à la TOU, où nous avons fait une soirée sous forme de galerie d'art, où diverses victimes, justement, de racisme médical ont pu exposer leur histoire, y compris moi-même. Puis ça a aussi souligné justement le début du lancement, du moins on l'espère très bientôt, là il nous manque le financement nécessaire, pour le troisième volet qui consiste en un programme de soutien à la fois juridique et psychologique pour les personnes qui en sont victimes. Sur le plan psychologique, ma famille et moi avons été traumatisés.
J'imagine.
La famille de Madame Echaquan, je suis persuadé qu'ils doivent être absolument traumatisés aussi. C'est extrêmement violent d'être victime de racisme dans le moment de notre vie où nous sommes le plus vulnérables. Alors, nous voulons aussi offrir ce service-là à ces personnes-là. Donc, nous avons développé plusieurs partenariats avec différents organismes communautaires qui offrent du soutien en matière de santé mentale. Et pour le volet juridique, justement, nous avons différents partenariats. Toutefois, c'est très dispendieux, le système juridique, et beaucoup de ces personnes-là qui en sont victimes n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, nous sommes en train de travailler très fort pour avoir le financement nécessaire pour pouvoir développer le projet que l'on espère pour rentrera en vigueur là, d'ici l'automne ou l'hiver prochain. Là. Mm-hmm.
Vous avez cité les organismes communautaires, mm-hmm. par exemple, avec lesquels vous travaillez, mais on parle du système de santé.
Exact.
Est-ce que le système, quand on dit système, est-ce que les hôpitaux, les mm-hmm. ministères ou le ministère, est-ce qu'ils sont, on les appelle quoi encore, les CIUS, mm-hmm. est-ce qu'ils sont inclus dans votre démarche ou quelque chose comme ça? Parce que c'est eux les premiers concernés.
Oui, alors pour l'instant, c'est une situation un peu délicate, hein? Okay. Dans la mesure où les CIUS, c'est une machinerie extrêmement lourde, beaucoup d'autorisations.
Quelque chose ouais. me gêne, docteur, excusez-moi de vous dire, quelque chose me gêne quand vous dites délicate, parce que ouais. délicat, c'est genre, on veut pas gêner l'autre personne, mm-hmm. mais ce que vous venez de me décrire,
ouais.
Je perds l'aide le plus cher de ma vie, mm-hmm. j'ai mal, j'écris, et on me demande, excusez, et que les auditrices et auditeurs m'excusent cette familiarité, mais on me demande de la boucler parce
oui.
que je vais gêner. Donc, je trouve pas de délicatesse là-dedans. Donc, moi-même, sors un peu de mon rôle, là, mais
parfait.
Dans la démarche, mm-hmm. je peux pas être délicat, en fait.
Je suis d'accord avec vous. Toutefois, on essaie, c'est un sujet, comme vous avez dit, qui est très, très délicat. Et nous savons qu'il y a des avancées qui ont été faites à ce niveau, au niveau du gouvernement. Toutefois, mm-hmm. ça reste encore un sujet qu'il faut aller avec petite pincette, malheureusement. Donc, nous allons essayer du moins là de faire notre mieux possible pour pouvoir les intégrer dans ce projet. Pour l'instant, sur le plan politique, nous avons reçu du financement notamment de Québec solidaire, mm-hmm. Qui ont été parmi les premiers à nous
Puis
aider.
On en parlait il y a quelques minutes.
Mm-hmm. Oui, exact.
Est-ce que c'est... Donc, vous dites, ça reste encore quelque chose de, ouais, il faut y aller de manière délicate. Mm-hmm. Vous êtes un peu dans le système. C'est quoi? C'est un système de pratique qu'il faut déconstruire. C'est une culture de travail
ouais.
ou de pensée, ou évidemment, de racisme, qu'il faut déconstruire. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait qu'il faut y aller avec des pincettes.
La réalité, c'est que c'est un sujet extrêmement complexe. Il y a des éléments un peu plus... Donc, quand on parle de discrimination ou bien de racisme au niveau du système de santé, là, il va y avoir des éléments d'un bord qui est sur le plan vraiment des interactions plus individuelles, mais il y a aussi des éléments un peu plus structurels. Mmh. Et ces changements plus structurels-là, c'est extrêmement difficile à faire parce que cela... Il va falloir que tous les acteurs du système de santé s'embarquent là-dedans, y compris les institutions d'enseignement médicaux qui ont un énorme travail à faire, notamment en ce qui concerne justement l'éducation en matière de compétences culturelles justement pour les travailleurs et travailleuses de la santé. Donc ça, c'est un premier élément à faire. Mais encore une fois, le racisme systémique, notamment pour les communautés autochtones, a été documenté énormément au cours des dernières années. Mm-hmm. Donc il y a un travail qui doit être fait aussi au niveau du gouvernement. C'est pour ça que je dis que c'est une situation qui est délicate parce que c'est difficile de savoir par où commencer. Honnêtement, et il faut absolument que l'ensemble des acteurs se mettent en place, travaillent ensemble pour pouvoir y arriver. Nous, de notre part, au niveau des organismes communautaires, la clinique juridique de Saint-Michel essaie de faire ce qu'elle peut. Toutefois, encore une fois,
Avec peu de moyens.
Mm-hmm. Nous sommes confrontés aussi, justement, à toute la complexité de cette machinerie-là qu'est le système de santé. Mm-hmm.
Je sais que vous travaillez sur quelque chose plus large, mm-hmm, que vous, vraiment plus pour au bénéfice de toute la communauté, mais permettez-moi de revenir sur votre cas personnel. Oui. L'infirmière, oui, excusez-moi, je n'ai pas le choix, l'infirmière qui parle à votre mère,
oui,
on en est où, on fait quoi avec elle, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, vous savez...
Si, on peut le dire publiquement.
Ouais. Mm-hmm. C'est une question qu'on m'a posée à quelques reprises dans les dernières années, et avant de faire ma médecine, moi je suis un juriste de formation, mm-hmm, donc j'ai gradué en droit à l'Université de Montréal, donc je connaissais les mécanismes de plainte et tout ça. Toutefois, ce qui arrive pour beaucoup de personnes, y compris pour moi qui avais les ressources, j'étais terrifié, j'étais traumatisé et je me sentais pas capable de devoir me replonger dans cette histoire-là, de devoir faire face à cette personne-là, de devoir raconter à nouveau mon histoire. Quand je dis que c'est traumatisant, c'est traumatisant. Et c'est vraiment aujourd'hui que je trouve la force. Et en ce moment, je suis en train de rédiger, présentement 4 ans plus tard, ma plainte officielle à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. J'avais pris les noms de cette personne-là. Je sais exactement où est-ce qu'elle travaille. Et c'est aujourd'hui que j'ai trouvé la force de le faire.
Mm-hmm. Est-ce que, on va conclure, est-ce qu'il y a beaucoup de... Comment dire ça? Là, vous avez fait cette activité à la TOHU. Mm-hmm. Ça vous a permis de rencontrer... Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Peut-être certains vivent même des situations, mais ne savent pas ou n'ont pas conscience que c'est du racisme médical.
Absolument. Vous savez, ce qui était vraiment très pervers dans le racisme médical, la discrimination dans notre système de santé, c'est que souvent, les personnes qui sont victimes ne le réalisent même pas. Mm. Parce que ceux qui ont le bout du bâton, ceux qui ont la force et les connaissances... Ben c'est nous, c'est les médecins, c'est les infirmières, les professionnels de la santé. Et souvent, ces personnes-là ne réalisent même pas justement que leur situation a été traitée de façon discriminatoire. Là. Les cas de Mme Echaquan, la seule raison pour laquelle nous sommes au courant, c'est parce qu'elle l'a filmé. C'est la seule raison. Là.
J'ai presque envie de dire aux gens, quand vous allez à l'hôpital maintenant, allez-y, mettez votre caméra et puis avancez. J'exagère à peine.
J'aurais tendance à vous dire que la grande majorité de mes collègues, et par collègues, je parle aussi de l'ensemble des professionnels de la santé, mm-hmm, avec qui je travaille, sont des personnes phénoménales, extraordinaires. Mm-hmm. Mais malheureusement, les situations comme...
Il y a des brebis galeuses.
Exactement. C'est un fait, malheureusement. La situation de mon père, la situation de Mme Echaquan est un exemple assez concret. La situation des nombreuses victimes, justement, qui ont témoigné au cours de notre soirée, justement, en témoigne aussi.
Ça s'appelle Remédions au racisme médical. Il y a un site internet, remédionsauracismemedical.org, c'est ça? Mm. Tous ceux qui sont victimes peuvent vous contacter, vous travaillez à documenter un peu tout ça, à les soutenir, à les accompagner. Mais on termine avec ça. Je vois que ça, c'est beaucoup les victimes. Mais je vais pas dire les bourreaux, on va pas exagérer, mais c'est-à-dire que les personnes qui justement en sont la cause ou qui sont la cause de tous ces traumatismes qui vous sont créés, malheureusement pour le moment il y a encore rien pour les affronter. Puis quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui a les ressources, qui est outillé intellectuellement, mais le traumatisme prend tellement de place qu'on n'a pas de force pour aller de l'avant.
Exactement. Mmh. Mais écoutez, il y a quelques choses qui ont été faites au cours des dernières années, mais il reste tellement, mais tellement à faire encore. Et je pense vraiment que les utilisateurs et utilisatrices de notre système de santé méritent mieux que ce qu'on leur offre à ce niveau-là. Mmh. Les personnes racisées méritent mieux. Et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les protéger. Mais encore une fois, il faut vraiment que l'ensemble des acteurs du système de santé, justement, puissent travailler de concert à ce niveau-là. Mmh.
Je retiens ça pour la fin. Travailler de concert, je me suis trompé, c'est racismemedical.org. C'est ça le nom du site, c'est racismemedical.org. On va de toute façon mettre le lien sur toutes nos plateformes. Donc je le dis encore, le projet a pour but de sensibiliser, informer le grand public devant ce problème-là, donc informer, assister juridiquement, psychologiquement et puis sensibiliser. Merci beaucoup d'être
Merci
venu
énormément.
Nous en parler. Racismemedical.org. Écoutez, ce micro est là, il est ouvert. Si vous avez besoin de nous, si on peut aider d'une quelconque manière, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis nous, on passera le message.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Vraiment, merci. Merci d'être passé nous voir. Je rappelle encore le docteur Wolf Tima, qui est co-initiateur de cette, en relation, en collaboration avec la clinique juridique de Saint-Michel, de cette initiative-là. Mettre fin au racisme médical. C'est affreux, c'est affreux. Merci d'être venu.
Merci encore.
Néo-Québec sur CIBL, c'est tous les dimanches de 13 à 15 heures. Passe le message.